Chapitre 3. Mes indécis. Ils marchaient de nouveau côte à côte le long d'un quai, chacun d'eux silencieux, sans se demander pourquoi l'autre l'était également. Thérèse dit enfin « Sans vous, je n'aurais pas vu cet arc-en-ciel, je n'aurais même pas su qu'il existait. Moi, je crois que vous seriez devenu un bon peintre si vous aviez voulu, si vous n'aviez pas épousé Léa, Léa du bureau. » Ils se mirent à rire tous les deux et Marc poursuivit la même idée. Léa du bureau au lieu de Rachel du pinceau, c'est que, voyez-vous, il faudrait me connaître. Le jeune Jacob dont on nous a enseigné l'histoire à l'école du dimanche était un gaillard décidé. Il voulait sa Rachel coûte que coûte, dût-il rester en servage chez son fichu beau-père. Quel renard ce Laban, je le vois avec un long nez mince, effilé. Dût-il y passer encore 4, 5 ans, même 7, je crois. C'est à ce prix qu'il a obtenu Rachel. » Tout à coup, son ton de plaisanterie changea. « Entre Jacob et moi, il y a une fière différence, » fit-il, tournant vers Thérèse ses honnêtes yeux tristes. « Je suis le jeune homme distingué, mais indécis. Un de mes amis va publier son premier roman où je figure sous ce titre. Dans mon esprit, je suis très décidé, c'est l'exécution qui manque. » Vous devriez m'entendre quand je suis seul et que je construis ma future biographie. Alors, je suis un crâne luron, je prends des décisions insensées et irrévocables. Je saute dans un fleuve sans réfléchir une seconde. Je dis à une jeune fille, racontez-moi votre histoire. Tout ça en rêve. Pour que je saute dans le fleuve en réalité, il faudrait que quelqu'un me pousse par derrière. Je serai d'ailleurs très obligé à cette personne, je vous assure. Ils arrivaient à une des grilles du Luxembourg, car ils avaient enfilé l'interminable rue de Vaugirard en redescendant des quais un peu au hasard, sans rien se dire, mais d'un commun accord. Ils entrèrent dans l'allée qui mène à la fontaine Médicis, sous ses arbres majestueux. Ils s'assirent sur le premier banc qu'ils rencontrèrent. « Vous me conseillez sans cesse d'être naturelle et simplette, » fit Thérèse au bout d'une minute, pendant laquelle elle avait tracé des ronds dans le gravier, avec le bout de son ombrelle jaune. « Mais si moi, je vous conseillais à vous d'être naturel et simplet et de dire à la jeune fille, « Racontez-moi votre histoire. » Elle s'arrêta un peu haletante. « Sait-on ce qui adviendrait ensuite ? » fit-il après un long silence. « Non, assurément, impossible de le prévoir. »« Il ne dit pas tout, » pensa-t-elle, « il a aussi un secret. » Leurs âmes, en cet instant, étaient près l'une de l'autre à se frôler. Il ne s'en fallait que de l'épaisseur d'un cheveu que la fusion se fit. De nouveau, Thérèse sentit un brouillard flotter dans sa tête et dans ses membres. Elle n'était pas tout à fait maîtresse de son cerveau, car elle voyait Marc sauter dans un fleuve, et c'est elle qui l'avait poussé. Immobile, comme envoûté par une magie hostile, il regardait fixement devant eux. Le cœur de Thérèse se mit à battre follement, elle en entendait les pulsations dans ses oreilles et dans ses tempes. Elle n'avait qu'à parler. Lui, avec ses réticences et ses reculs, elle, avec une suggestion presque exprimée, ils étaient à l'extrême bord de la confession qui les emporterait sans doute bien loin l'un de l'autre. Tout à coup, Marc se leva. « J'ai beaucoup trop parlé, excusez-moi, » fit-il. « C'est cet arc-en-ciel qui m'a un peu ensorcelé. » « Moi aussi, je crois. Nous avons dit beaucoup de bêtises, » fit Thérèse. C'était fini. Le terrible moment du péril avait passé. Elle n'avait rien dit. Elle était sauvée. Le soir, dans sa mansarde brûlante que l'air du soir rafraîchissait un peu par la grande lucarne ouverte, car le vent ne soufflait pas de pantin, elle se faisait une tasse de thé sur sa lampe à alcool, quand on gratta à sa porte et l'aimable fille qu'on appelait Beau Pastel avança discrètement son joli minois. « Vous êtes seule ? Moi aussi. Vous ne m'entendez pas, là, au fond du couloir, jouer des airs plaintifs sur mon accordéon ?» Beau Pastel, faute de place, habitait aussi l'étage des mansardes. « J'ai bien entendu un accordéon, » répondit Thérèse. « J'ai cru reconnaître l'air du jeune Helvétien, ça me paraissait drôle à Paris. » Elle se mit à fredonner les premiers vers. « N'as-tu pas vu, plaintive tourterelle, sur ce rocher, mon jeune Helvétien ? Si je ne me trompe, dit Beaupastel en riant, vous vous êtes promené toute l'après-midi avec mon jeune Helvétien à moi. C'est donc le vôtre ? Je m'en doutais, articula Thérèse avec un rire qui lui parut léger et naturel. Mon cousin, simplement, n'imaginait rien d'autre. Mon cœur est pris ailleurs. Voulez-vous du thé ? Demanda Thérèse. J'y comptais. Vous voyez que j'ai apporté mon verre. J'ai même des biscuits secs. Servez-vous. Tous les luxes. Et comment trouvez-vous mon cousin ? Il est d'un naturel effarant, n'est-ce pas ? Vous l'avez entendu rire ? Pas moqueur, non, mais impitoyable aux petits mensonges qu'on est bien obligé de faire pour vivre. Son mensonge à lui ? Un mensonge à lui ? S'écria Thérèse. À mon avis, un mensonge plus que permis, un mensonge presque héroïque. Il se fait passer pour costaud, c'est facile avec sa stature. Mais il a quelque chose au cœur, une valvule, je crois, qui ne... Je ne suis pas ferré là-dessus. Une valvule ou une oreillette qui n'agit pas comme elle devrait. C'est de famille. Chez lui, on meurt subitement et pas vieux. Alors, ça le retient, ça le rend indécis. Vous n'irez pas lui en parler, au moins. Lui en parler ? Comment pouvez-vous croire ? S'écria Thérèse. De quel droit lui en parlerai-je ? Ou dans quel but ? Excusez-moi, fit l'aimable Beaupastel en riant. Je croyais que vous étiez en termes d'intimité avec mon cousin. Je vous mettais au courant d'un fait qui peut avoir son importance. Est-il vraiment atteint d'agoraphobie ? Demanda Thérèse à demi-voix. Agoraphobie ? Connais pas. Si vous disiez neurasthénie, c'est un mot à la mode depuis quelque temps, je dirais oui. À la maison, on estime que mon cousin est un peu neurasthénique. Il ne se décide à rien. Il a commencé la peinture, il est venu à Paris pour ça, puis, à tort ou à raison, il s'est persuadé qu'il n'a pas de talent. Il est entré dans la maison Delacroix, où il a d'ailleurs une jolie position. Mais il flotte, il hésite, il regrette. Il aurait besoin d'une bonne poussée. C'est bien ça, fit Thérèse d'un ton songeur. Encore un verre de thé, Beaupastel, avec une tranche de citron. Merci. C'est le combientième. On a une soif du Sahara sous ce toit. N'irez-vous pas bientôt vous rafraîchir dans vos montagnes ? Moi, je brame après mon lac où il fera si bon faire trempette. Je voudrais d'abord finir mes cathédrales, répondit Thérèse qui prit un air de souci. Et puis, après, je ne sais trop quoi. Peut-être continuer le tour du monde que j'avais commencé. Bah, bah, vous feriez mieux de vous occuper de mon cousin. Laissez-moi vous parler bien franchement. Sans avoir des yeux tout autour de la tête comme notre bourgeoise, je vois à peu près clair. Vous n'auriez qu'un mot à dire. Il y a des cas, n'est-ce pas, où notre sexe faible et timide est obligé de prendre l'offensive. Tenez, rien qu'en disant au moment propice, vous êtes bien rêveur, à quoi pensez-vous ? Il y a des chances pour qu'on déclenche un résultat. Votre cousin n'est jamais rêveur, fit Thérèse tout à coup réveillée. Peu importe, on dit ça quand même d'un air de sentiment. Comme vous êtes astucieuse, avec votre teint de lys et de rose, et vos yeux de myosotis, et vos jolies mines d'ingénue. Ce que j'ai, fit Beaupastel, c'est du chagrin en ce moment, avec un flirt qui ne rend pas. Mais je m'en remettrai. Je suis dans un état vacant. Cela me permet de m'intéresser à votre flirt à vous. Je vous assure que je n'en ai pas, interrompit Thérèse, qui fronça légèrement le sourcil. Peut-être, mais Marc Maujon, hier soir, ne regardait que vous. Pour ne rien perdre de votre voisinage, il s'est abaissé à jouer dans une charade, ce qui ne lui était jamais arrivé de mémoire d'homme. Il vous a fait un compliment que j'ai entendu, j'étais près de l'autre fenêtre. Il vous a dit « Comme vous êtes belle ce soir !» Le compliment s'adressait à ma robe, protesta Thérèse. « Par exemple, et vous étiez pâle, avec des yeux égarés, pendant une bonne minute, de l'instant où mon cousin est entré au salon. » « J'ai eu un mauvais moment, en effet, avoua Thérèse. Mais vous seriez bien aimable de ne pas tant m'observer. J'ai des souvenirs que vous ne savez pas. » « Raison de plus, un clou chasse l'autre. Tenez, continua Beaupastel en appuyant commodément sur la table son joli bras nu que découvrait la manche du peignoir blanc brodé de rose et d'argent. « Tenez, je vais vous dire le fond. Je souhaite que mon cousin se marie. J'ai de l'amitié pour lui. Il n'est pas fait pour la vie de cénobite, encore moins pour la vie de bohème. On ne lui connaît aucune liaison. » Ici, la jeune diplomate s'interrompit pour jeter un coup d'œil à Thérèse. « Tiens, pensa-t-elle, je n'ai pas produit l'effet que je pensais, au contraire. » Thérèse se disait « Il n'a rien à cacher, lui, rien à confesser. Et encore, aurait-il eu une liaison, ce serait simple à dire ou ne pas dire, tandis que ma position à moi sera éternellement équivoque. » Marc a besoin d'un chez-soi et d'une gentille femme intelligente. Nous autres, Julien, nous ne lui plaisons qu'à moitié. Il se moque de nous toutes, sauf de Gligli, parce qu'il a pitié de Gligli. Vous, vous êtes du vin de notre tonneau. Pardonnez-moi, mon père est un grand vigneron. Vous avez quelque chose de particulier, une réserve, un petit air de mystère. Oui, c'est attrayant. Enfin, pensez un peu à tout ce que je vous ai dit là. Il n'y a aucun obstacle. Cette valvule, ce n'est pas fatal. Il ne vous en a jamais parlé. Il m'a dit qu'un beau jour, il tomberait mort au pied de la colonne de Juillet. C'est ça, c'est bien ça, c'est l'obsession. Si son père est mort à 40 ans, ce n'est pas une raison pour que la série continue. Sa famille, je puis bien vous le dire, préférerait le voir épouser une romande plutôt qu'une française. Ça doublerait le fil qui le rattache au pays. Outre sa position chez Delacroix, il a un pied dans des revues, il écrit des monographies de peintres, et depuis 2 ou 3 ans, des salons très amusants qu'il signe « L'homme indécis ». Je clôt cette confidence en disant « Mon cousin n'attend que le geste bienveillant qui le jettera à l'eau pour être repêché par la mystérieuse Thérèse ».